Bonjour Tiffaine, et aujourd'hui nous revenons sur l'écrivain le plus visible de la rentrée littéraire de janvier, c'est-à-dire Michel Houellebecq, pour tenter de comprendre ce que c'est que l'objet sérotonine.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le patrimoine littéraire dont nous parlons chaque semaine dans cette émission va-t-il jusqu'à ce que l'on pourrait appeler des classiques contemporains, c'est-à-dire des écrivains dont l'œuvre, bien loin d'être achevée, est au cœur du débat littéraire d'aujourd'hui? Nous avons déjà répondu oui en consacrant par exemple des semaines à Annie Ernaux ou à Emmanuel Carrère, mais jamais en proposant une émission sur un livre dans l'actualité. Or, peu de romans suscitent aujourd'hui des conversations aussi passionnées à une aussi large échelle que Sérotonine, le dernier livre de Michel Houellebecq, paru le 4 janvier dernier aux éditions Flammarion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie de revenir, dans une forme nouvelle mais en gardant l'esprit de l'émission, sur ce que ce livre et son auteur apportent à la littérature d'aujourd'hui, sur la façon dont il s'inscrit dans une tradition littéraire française et sur ce qu'il apportera ou pas à l'histoire de cette littérature. Nous allons donc tâcher de mettre Sérotonine en perspective, que ce soit sur ses aspects stylistiques comme sur les thèmes et les sujets qu'il traite. Nous tâcherons également de replacer ce livre dans l'œuvre de son auteur et de celle des écrivains d'aujourd'hui. Nous chercherons enfin à le comparer à d'autres grands littérateurs qui l'ont précédé. Pour ce faire, quatre de nos chroniqueurs réguliers du jeudi nous font le plaisir d'être parmi nous et ils auront la parole à tour de rôle pour donner leur point de vue sur tout cela. Autour de la table, Tiffaine Samoyau, essayiste et professeur de littérature comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle, Stéphanie Genant, maîtresse de conférence HDR à l'Université de Rouen et spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, Pierre Glaude, professeur de littérature du XIXe siècle à l'Université Paris-Sorbonne, et enfin Éric Marty, professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris Diderot. Bonjour à tous les quatre et bienvenue dans la compagnie des auteurs.
Mais pourquoi m'entraîner vers ces scènes passées? Comme disait l'autre, je veux rêver et non pleurer, ajoutait-il comme s'il en avait le choix. Il me suffira de dire que notre histoire durera un peu plus de 5 ans. 5 ans de bonheur, c'est déjà considérable. Je n'en méritais certainement pas tant. Et qu'elle prit fin d'une manière effroyablement stupide. Des choses comme ça ne devraient pas avoir lieu. Elles ont lieu pourtant. Elles ont lieu tous les jours. Dieu est un scénariste médiocre. C'est la conviction que presque 50 années d'existence m'ont amené à former. Et plus généralement, Dieu est un médiocre. Tout dans sa création porte la marque de l'approximation et du ratage, quand ce n'est pas celle de la méchanceté pure et simple. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a forcément des exceptions. La possibilité du bonheur devait substituer ne fût-ce qu'à titre d'appât. Enfin, je m'égare. Revenons à mon sujet, qui est moi. Ce n'est pas qu'il soit spécialement intéressant, mais c'est mon sujet.
De Sérotonine, lu par Michael Cohen. Notre sujet à nous, c'est donc ce livre. Et avant de vous laisser vous exprimer les uns et les autres sur ce roman, je vais en résumer rapidement l'intrigue. Alors, il s'agit de l'histoire de Florent-Claude Labrouste, un agronome de 46 ans qui n'est pas, dit-il, de ceux qui laissent une trace indélébile dans l'histoire, ni même dans la mémoire de ses contemporains, et qui vit en négatif, paraît subir d'ailleurs sa vie plus que la diriger, dans un état de manque généralisé qu'il cherche à combler, alors par la nourriture, la nicotine ou la sérotonine, cette substance antidépressive qui constitue le principe actif des comprimés de Captorix qui maintiennent le narrateur, non pas vraiment enjoué, mais tout du moins dans un état fonctionnel. Alors ce manque qu'il ressent, c'est surtout celui de ses amours passés, et en particulier de celui qu'il portait à la joyeuse et vivante Camille, qu'il s'en veut d'avoir laissé partir. Mais le manque, c'est peut-être aussi celui d'une autre France, une France qui porterait des valeurs aujourd'hui perdues, incarnées par le travail honnête de son ancien meilleur ami, Aymeric, rencontré du temps de leurs études à l'Agro. Aymeric, fils de famille aristocrate, qui a repris l'exploitation agricole installée sur les terres de son père et qui tente de survivre malgré la chute du prix du lait et le départ de sa femme Cécile. Problème, c'est en partie le narrateur lui-même, de par son travail au ministère de l'Agriculture, qui a contribué, quoique indirectement, aux problèmes financiers d'Aymeric. Alors ces deux fils narratifs principaux se doublent d'autres histoires qui apparaissent comme des mirages, parfois absurdes, comme celle de l'Allemand pédophile que le narrateur fait fuir du bungalow où il a fait venir une petite fille, ou alors l'histoire de sa petite amie japonaise au début du roman qui pratique le sexe de façon extrême au point d'aimer se faire souiller par un chien, alors même que son obsession de la beauté plastique lui fait chaque matin passer 2 heures dans la salle de bain. Voilà donc pour un rapide résumé, c'est le moment de laisser la parole à nos chroniqueurs avec une première intervention sur les aspects d'abord les plus formels et les plus littéraires de ce livre, avec cette interrogation sous-jacente. Est-ce qu'on est face à un bon livre, un livre important, ou au contraire à un phénomène de mode? Et c'est vous qui commencez, Tiphaine Samoyau. On vous écoute.
Merci Mathieu. Alors vous avez évoqué la notion de classique contemporain à propos de Michel Houellebecq, en tout cas de manière au moins interrogative. Effectivement, il y a plusieurs manières de définir un classique. On peut le définir par sa capacité à durer. Donc là, ce serait difficile de le prédire. Mais on peut définir aussi un classique comme la capacité qu'a eu un livre ou une œuvre à se rendre claire. Et je crois que c'est cette très grande clarté de Michel Houellebecq qui fait aussi une part de son succès, mais qui le raccroche d'une manière ou d'une autre au classique. Donc cette clarté, c'est évidemment sa très grande lisibilité. Qui pourrait se caractériser à plusieurs niveaux. Finalement, il y a une lisibilité de la langue, une lisibilité stylistique. Je pense qu'on peut dire que son écriture correspond à l'idée qu'on se fait d'un écrivain qui écrit bien, d'une manière générale. Donc, il emploie une langue très classique, là pour le coup, qui par exemple réactive cette alternance imparfait passé simple, qui est quand même un tout petit peu passé dans la littérature contemporaine ou la littérature après la modernité. Et en même temps, c'est une langue certes classique, mais qui a ses caractéristiques propres, hein, qui est un petit peu négligée, qui ne se tient pas dans la période classique. Hein. Il y a quelque chose d'un peu débraillé dans cette langue, qui correspond aussi bien à l'image que veut donner son auteur. Alors la lisibilité, elle fonctionne aussi au niveau de la construction du livre, hein, parce que c'est une construction quand même recherchée, concertée. On n'est pas dans un récit linéaire, hein, il y a des retours en arrière, mais en même temps, ça reste très acceptable, disons. On ne se perd pas, hein, dans la construction. C'est-à-dire qu'on a le présent du narrateur, donc dans cet état dépressif que vous avez décrit, et puis toutes ces scènes, ce catalogue finalement de ses amours passés qui vient creuser le présent, mais sans le déranger très profondément. Mais peut-être ce qui me frappe le plus, c'est que cette lisibilité, elle joue au niveau plus qu'idéologique, je dirais au niveau du contenu, au niveau du propos du livre. J'ai l'impression que pour Houellebecq, mais ça c'est peut-être pas simplement dans Sérotonine, mais dans l'ensemble de ses livres, il y a une très grande lisibilité de l'histoire, hein, et que finalement tout s'explique toujours. Et aussi bien la crise des agriculteurs que la dissolution des liens, de couples, de communautés, tout ça s'explique, hein, à une raison historique liée évidemment à la défaite des idéologies de progrès, ou même à la mise en œuvre des idéologies de progrès, au libéralisme. Alors avec certains de ces constats, on est évidemment d'accord, avec d'autres, on peut s'opposer. Donc voilà, je dirais cette lisibilité très profonde, elle est accueillante évidemment, hein, elle est accueillante pour le grand nombre. Alors on peut aussi lui reprocher de manquer de résistance ou de ne pas forcer le lecteur à construire lui-même les conditions de l'accueil de l'œuvre. Mais Voilà, on peut dire ça, qu'elle est accueillante.
Alors on vous laissera poursuivre tout au long de cette émission sur ce thème et développer votre propos, Tiphaine Samoyau, sur une première impression de ce livre, Pierre Glaude. Est-ce qu'on est là face à un classique, face à un livre qui compte ?
Je ne suis pas devin, mais je ne pense pas pouvoir me prononcer sur la fortune critique et la capacité de résistance de ce livre au flux de l'histoire, mais je suis frappé par quelque chose de paradoxal dans l'approche qu'on peut en avoir et dans ce qui s'en dégage. On insiste beaucoup, dans un certain nombre de cas, sur ses audaces, sur son côté scandaleux, sur ce qu'il ose, ce qu'il peut avoir éventuellement de choquant. Et en même temps, il me semble que c'est un livre qui, si on veut dépasser cette première impression, est terriblement enraciné dans un passé. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un livre qui vient de quelque part, et je dirais presque que Houellebecq est un tailleur, c'est un roman de tailleur. Je veux dire, par là, il me semble qu'il fait un costume neuf en coupant ses étoffes dans d'anciens costumes, pour les mettre au goût du jour, évidemment, hein, pour les adapter à notre temps. Mais je le lis comme un jeu avec la littérature, avec des thèmes qui sont rebattus, avec des schèmes narratifs qui sont loin d'être neufs. Et ce jeu avec la littérature me paraît corrélé avec une sorte de trajectoire qui va dans le sens de la consécration littéraire, de l'installation dans la position de romancier des classes moyennes, touchant un large public, fournissant d'une certaine manière à ce public un certain nombre d'ingrédients qu'il attend, ce qui lui permet de se placer avec l'acquiescement de toutes les institutions qui concourent à la constitution de l'espace littéraire, au cœur de cet espace. Et donc, j'ai un peu l'impression, quand je le lis, que je le lis dans une sorte de distance amusée, que c'est un romancier qui veut nous avoir, d'une certaine manière. Un peu comme, si vous voulez, à l'opéra, Puccini veut nous avoir avec Madame Butterfly. Au sens où il joue sur les émotions, il joue sur le pathos, il convoque les affects par ses inconvenances, son langage cru, sa trivialité, par exemple. Mais au fond, si on dépasse tout cela, c'est un roman très fabriqué et qui me paraît terriblement enraciné dans une tradition, un passé.
Stéphanie Genon.
Alors, est-ce que Houellebecq est un classique ? C'est difficile aussi à dire. Moi, en revanche, je parierais quand même sur sa longévité dans nos mémoires. C'est-à-dire que je pense que dans 100 ans, des gens qui voudront comprendre ce qu'aura été le moment historique des années 90-2020, à mon avis, liront Houellebecq. À mon avis, c'est un auteur classique parce qu'il est symptomatique. C'est-à-dire qu'il est, je suis assez d'accord avec ce que Pierre veut dire, non pas tant le miroir que le symptôme de notre époque. Un symptôme presque au sens clinique, c'est-à-dire que pour moi, Houellebecq est aussi un produit frelaté, je pense, hein, de notre époque, dont il est à la fois un cristallisateur, un accélérateur. Lire Houellebecq, c'est comprendre, et c'est ça qui est parfois pénible, de manière encore plus importante, ce qu'on est nous aujourd'hui, ce qui nous manque à nous, c'est-à-dire des valeurs, des orientations, voilà. Et je pense qu'il arrive à concentrer tout le désarroi qui est de notre époque aujourd'hui, sans plus de conviction, d'idéologie, ni d'orientation. Et d'ailleurs, je trouve que Sérotonine, de ce point de vue-là, n'est pas un bon roman, pour répondre à la question, en tout cas, c'est mon avis, parce que c'est justement un roman très erratique. C'est un mot qu'il emploie à un moment donné dans le personnage de Florent, dit « Le monde est devenu aujourd'hui trop chaotique ». Et d'ailleurs, le personnage ne cesse de changer de destination, hein, d'aller d'un endroit à l'autre sans aucune motivation. Et j'ai eu l'impression aussi qu'en termes narratifs, le roman cherchait sa direction. On n'en avait plus. Et c'est du coup un roman très, Tiphaine parlait de catalogue, très énumératif. On passe d'un souvenir à l'autre et d'un endroit géographique à l'autre, avec aussi une intrigue effectivement enracinée qui survient un peu sans motivation. Pour moi, c'est un livre beaucoup moins bon que ce qu'il a pu faire auparavant, mais qui dit quelque chose de son propre essoufflement, parce que c'est aussi un roman traversé par la perte de l'inspiration et la perte du désir, la perte de l'érection à cause du captorix. C'est un livre sans désir. Est-ce qu'on peut encore écrire sans désir? Houellebecq nous prouve que c'est son plus gros tirage, alors qu'il a presque plus rien à dire.
Voilà. Éric Marty, sur cette même question, Houellebecq est-il un classique? Est-ce un bon roman?
Ce qui est évident, c'est qu'il y a une aspiration de sa part à devenir un classique. Tout manifeste chez lui, tout un tas de signes, de comportements, de stratégies manifestent cette ambition d'être un classique. La seule question, c'est de savoir si ça a une pertinence d'être un classique dans l'ordre symbolique qu'est le nôtre. Est-ce que, au fond, notre société admet encore l'idée qu'il y ait la promotion ou l'émergence d'un classicisme contemporain, surtout d'ailleurs en matière littéraire? Et je pense que non. Je pense que précisément cette aspiration de Houellebecq à être classique est une aspiration complètement dépassée. Enfin, c'est vraiment un rêve, un fantasme qui est un fantasme qui vient d'un autre temps. Et il ne peut qu'échouer. Il ne peut qu'échouer parce que la société actuelle et l'industrie culturelle actuelle n'est plus en mesure et ne veut plus qu'il y ait justement précisément l'émergence d'un classique. Par ailleurs, ma définition du classique, ça serait la faculté à pouvoir se répéter. Un classique est celui qui précisément a le génie de la répétition, une répétition qui serait bien sûr prise dans des différences telles que cette répétition serait justement non seulement admise, supportée et non pas justement ennuyeuse. Or, là, je rejoins un peu ce qui vient de dire Stéphanie, c'est-à-dire que il y a ici un échec local, disons, qui était déjà d'ailleurs présent dans Soumission, qui était l'idée était absolument géniale de scénario déjà, mais qui était un échec total dans la réalisation. Et là aussi, je pense qu'il y a un échec, c'est-à-dire que au fond, ce qui a été au départ l'ambition de Houellebecq, c'était une ambition qui pourrait relever une sorte de degré zéro de la littérature, donc effacer les signes littéraires, détruire justement ce qu'il peut y avoir de reproduction dans le champ littéraire pour arriver à cette espèce de non-style ou de style bas qui précisément évacuait cette espèce de rituel de la littérature. C'est très bien, sauf que là maintenant il fait du Houellebecq, c'est-à-dire que son non-style est devenu signalétique de Houellebecq. Et à ce moment-là, ça devient une sorte de saturation des signes houellebecquiens. Les premières pages où il y a trois marques, café, de voiture, etc., c'est trop, c'est lourd, c'est tout moche.
Est-ce que c'est pas justement un effet de style?
Oui, mais non, c'est justement, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'en plus, Houellebecq n'est plus capable de comprendre ce qu'il est. Je pense qu'il y a, d'ailleurs, il y a beaucoup de signes dans son espèce de détérioration intellectuelle. Par exemple, cette idée stupide qu'il a eue de faire cette correspondance avec BHL, croyant par là arriver à une forme de notoriété qui le sortirait du petit statut de romancier de gare. C'était une erreur telle bêtise que ça montre qu'il n'est pas complètement conscient, en plus, de sa propre situation, de sa propre intelligence et de ses propres possibilités d'émergence. Donc, pour moi, à tous les niveaux, au niveau aussi bien, je dirais, d'une acception sociologique du classique que dans son acception littéraire, je vois plutôt une sorte de fantasme vain et voué à l'échec.
Donc il ressort un petit peu de vos interventions l'idée que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Michel Houellebecq est en fait une construction de lui-même, une construction presque marketing, pourrait-on dire, et votre idée, finalement, c'est que on n'est pas là vis-à-vis d'un roman qui fait avancer l'histoire de la littérature.
Pour comprendre bien Houellebecq, il y a un petit livre qui est de Marc-Edouard Knapp, qui est un mauvais livre, mais qui s'appelle le 27e livre, pardon, où il raconte qu'il a vécu, qu'il a cohabité avec Houellebecq dans les années 90. Ils habitaient tous les deux rue de la Convention. Houellebecq n'était rien. Knapp était, lui, une sorte de petit dandy comme ça à la mode. Et Houellebecq était donc cette espèce de fantôme d'écrivain qui voulait devenir un grand écrivain. Et Knapp, dans ce livre, cite justement ce que dit Houellebecq. « Si tu veux avoir des lecteurs, mets-toi à leur niveau. Fais de toi un personnage aussi plat, mou, médiocre, moche et honteux que lui. C'est le secret, Marc-Edouard. Toi, tu veux trop soulever le lecteur de terre, l'emporter dans les yeux de ton fol amour, de la vie et des hommes. Ça le complexe, ça l'humilie, et donc il te néglige, il te rejette, puis il finit par te mépriser et te haïr. » Michel avait raison, un best-seller a toujours raison. Et effectivement, je crois qu'il y a de la part de Houellebecq une construction de soi-même, qui passe par, non pas du marketing, parce que je pense que le narcissisme de Houellebecq est si violent et si profond qu'il va au-delà d'un simple enjeu marketing. Il y a réellement chez lui un investissement de soi qui est là, mais qui est en effet celui que résume ici Marc-Edouard Nab, c'est celui d'une sorte de désir de platitude, de non-désir ou d'un désir très paradoxal qui est profondément morbide et qui va dans le sens justement d'une sorte de narcissisme du non-désir qui est le pire, à mon avis, des narcissismes.
Alors sur le style de Sérotonine, et plus largement sur le style de Houellebecq, il y a un certain nombre de phrases redondantes et un petit peu étranges. J'en ai relevé une, par exemple. Les radiateurs électriques étaient commandés par un thermostat. Il me suffisait de tourner un bouton pour obtenir la température souhaitée. C'est quoi cette phrase-là ? À quoi elle sert ? Pourquoi redire deux fois la même chose ? Est-ce qu'on est là justement dans une volonté de montrer que le personnage est dans un état finalement psychologique, de faiblesse psychologique, et que donc il ne peut qu'être redondant, que répéter deux fois les mêmes platitudes? Donc est-ce qu'on est là dans un effet littéraire qui est intéressant, parce qu'il crée aussi sur le lecteur un sentiment presque de gêne, ou est-ce que pour vous c'est simplement une écriture peut-être un petit peu plate et d'un classicisme qui serait sans grand intérêt? Tiphaine Samoyau, vous qui avez estimé qu'on était avec Michel Houellebecq dans quand même quelque chose de l'ordre de l'écriture classique, qu'est-ce que vous voudriez rajouter?
Mais il y a en effet une certaine désinvolture. On peut, c'est toujours l'habileté quand même de Houellebecq qu'on peut faire passer les truismes, les lieux communs ou les irrégularités ou les déséquilibres. On peut les faire passer pour des désinvoltures du narrateur ou du personnage plutôt que celle de l'auteur. Il y a quand même un dispositif extrêmement habile. On a évoqué la première scène. Cette première scène, elle est quand même incroyablement habile parce qu'elle fonctionne sur des stéréotypes extrêmement grossiers, hein, c'est-à-dire la grosse voiture, les pneus à regonfler, les petits shorts moulants, etc. Donc c'est tellement grossier qu'ils sont mis à distance par une certaine ironie, c'est-à-dire le lecteur sait qu'il ne doit pas se laisser prendre parce que le stéréotype est tellement gros que forcément n'importe qui le met à distance, et en même temps ça laisse libre cours à un déploiement d'un sexisme et d'un érotisme de bas étage qui fonctionne aussi. Oui. Hein, tout fonctionne toujours au premier et au deuxième degré. Donc même le lecteur se sent pas du tout bête ou considéré comme méprisé ou quoi, puisque de toute façon les deux degrés marchent ensemble.
Oui. La première chose à rechercher, toujours une citation de ce premier chapitre, la première chose à rechercher, expliquai-je, était la pression de gonflage souhaitable compte tenu du modèle automobile considéré. Elle figurait en général sur une petite plaque métallique soudée au bas de la portière avant gauche. Là encore, on peut se demander quel est l'objet, voire l'intérêt de cette description, Pierre-Claude.
C'est tout le problème de l'esthétique de Houellebecq, qui est une esthétique de la trivialité ou de la platitude. Et donc, qui intègre ce qui d'habitude est exclu du champ de l'esthétique, c'est-à-dire les négligences de la syntaxe, même les fautes.
Comme le disait Tiphaine Samoyau, également une attention, par exemple, à la concordance des temps, qui a un petit côté un peu suranné.
Oui, c'est en effet à la fois des marqueurs de convention qui vont dans le sens d'un bon usage, d'une tradition, et en même temps des négligences qui se multiplient en termes de lexique, en termes de syntaxe, que d'ailleurs la critique a relevé. Qui s'étendent aussi à des alors que la convention globale du récit est quand même celle d'une forme de réalisme et donc d'assujettissement à la vraisemblance, vous avez des invraisemblances dans le récit. Par exemple, lorsque à la fin du récit Florent Claude Labrouste retrouve Camille, il n'a aucun moyen, normalement, dans ce récit à la première personne, puisqu'il n'a plus de contact avec elle, de savoir ce qu'elle est devenue. Et pourtant, il a reconstitué complètement son histoire, la façon dont elle a eu un enfant en participant à un concert. Bon. Tout cela, on se demande évidemment si c'est de l'ordre de la désinvolture ou bien si c'est une esthétique concertée qui va dans le sens d'une pulvérisation de la langue
mais qui en fera un génie de la littérature.
Alors je ne sais pas, mais en tout cas, qui cherche une homologie entre la forme et le sens. Et en l'occurrence ici, dans une perspective qui serait celle d'une forme de nihilisme et de surexposition par le recours systématique, là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Tiphaine, avec des poncifs, des clichés, des stéréotypes. Il y a un jeu massif sur les stéréotypes, les poncifs et les clichés, pour surexposer une forme de misère du monde dans la langue, dans le lexique, dans la syntaxe, et jusqu'à y compris dans les lois du récit.
Même chose avec les phrases qui sonnent comme de la provocation. « J'étais décadent, moi, pas un PD rural grec ». Bon, est-ce que, là encore, il y a un intérêt précisément littéraire à ce genre de provocation, ou est-ce qu'on est dans autre chose? Quel est votre avis, Stéphanie Genon?
Je serais d'accord avec ce qu'Éric a dit tout à l'heure. Moi, je suis pas welbeckophobe. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ces romans, notamment les Particules élémentaires, qui, par exemple, sont un des textes que je trouve les plus intéressants. Je trouvais que ces premiers textes arrivaient à construire un univers prenant la médiocrité comme architecture, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un univers qui, même s'il reposait sur toute la vilénie contemporaine, était séduisant, était intéressant. Depuis deux ou trois romans, et depuis Soumission aussi, je suis d'accord avec Eric, ce château de cartes s'effondre, et Houellebecq, du coup, ne nous donne plus à voir qu'une médiocrité qui n'arrive plus à faire univers, si bien que toutes ces provocations dont vous parlez, toute cette homophobie, ce sexisme quand même assez...
dont on a du mal à croire qu'il les reprend à son compte, tellement c'est énorme.
Mais ils ont toujours été là, sauf que là, du coup, comme ils ne reposent plus sur un univers, ils ne reposent plus sur une vraie création, ils deviennent une provocation très agaçante, un mauvais goût à l'état pur, ce que j'ai trouvé, moi, très pénible à la lecture, alors que Houellebecq a toujours eu ses raisonnements sur la sexualité, je veux dire, c'est structurel. Mais auparavant, ça faisait partie d'un univers. Il y avait chez lui une conception derrière tout ça, c'est-à-dire que quand il nous parlait des femmes, des PD, comme vous dites, ou je sais pas quoi, tous ces mots affreux qu'il utilise, ça faisait partie, on était dans son univers. Tandis que là, comme il n'y a plus d'univers, il y a juste quelqu'un dont on a l'impression qu'il crache son amertume, ça devient quelque chose de gratuit, qui perd pour moi tout son sens, et à lire, tout son plaisir.
Il n'y a pas d'humour dans ce livre, il n'y a pas de volonté quand même, justement, de se moquer de ce personnage très caricatural.
Si, mais quand on se moque de tout comme ça, quand on méprise même le lecteur, quand on lui inflige des choses aussi pénible quand même, avec un tel mépris, aussi bien pour le lecteur que pour l'institution qui va consacrer Houellebecq, parce qu'à la fin, de toute façon, c'est lui qui gagne. Si c'est de l'humour, il est très cynique. C'est pas ma conception de l'humour, en tout cas. Mais...
Éric Marty, est-ce qu'il sera étudié à la faculté si c'est lui qui gagne?
Moi, je ferais bien un cours sur, en effet, les particules élémentaires ou sur plateforme, pourquoi pas, parce que c'est des objets, en effet, configurés. Des questions d'architecture, en effet, il y a une configuration. Et dans celui-là, et déjà dans Soumission, il y a une telle linéarité et un tel enchaînement totalement plat des épisodes. Alors moi, je dois dire, j'ai eu beaucoup de mal à finir le livre. Je trouve que les 45 premières pages sont assez bien, assez intéressantes. Toute la scène avec les Espagnols, toutes les premiers séjours en Espagne.
Et le rapport quand même terrible, voilà, de ce couple.
Et le moment où ça bascule, à mon avis, dans la platitude, c'est la page 45, au moment où ils sont sur l'autoroute pour retourner à Paris. Et à ce moment-là, en effet, tout va devenir interminable, tout va se succéder. Ce qui me frappe beaucoup, en fait, là-dedans, c'est qu'avant, Houellebecq savait faire du bas de gamme. Maintenant, il est du bas de gamme. C'est ça le problème, c'est qu'il n'est plus dans cette capacité à faire, mais il l'est. Sauf, alors justement, et c'est là où je nuancerai un peu les propos qui ont été tenus, par le fait que justement son narcissisme, et j'y reviens, est tel qu'être médiocre, au fond, ou faire du médiocre, est pour lui aussi un risque de passer pour médiocre. D'où le fait que, notamment au début, dans les premières pages, où il est plus subtil, il glisse des éléments très dérangeants, plus subtils, plus complexes, et... Le passage que vous avez fait lire au début, c'était sur Dieu, et en effet, où quelque chose de gnostique ou de mystique peut revenir. Alors, je voudrais juste lire les quelques lignes du début, page 24, avec l'une des Espagnoles. Voilà ce qu'il écrit. « Avec la châtain, donc l'une des Espagnoles, tout aurait été différent. Elle se serait dessapée sur la plage, sans ressentiment et sans mépris, telle une fille obéissante d'Israël. » Première incise mystérieuse. Par rapport au dessapé, bon, telle une fille obéissante d'Israël. Elle n'aurait pas été dérangée par les boulerets des grosses retraitées allemandes. Parenthèse, tel était le destin des femmes, elles le savaient jusqu'à l'avènement du Christ en gloire. Pourquoi tout d'un coup vient surgir cet avènement du Christ en gloire qui ne peut rien dire, je dirais, au lecteur de l'Express, au français moyen, qui croit être le lecteur de Houellebecq. Alors là, c'est là où ça bouge un peu, c'est là où ça tremble un peu, c'est là où ça frissonne, et c'est là où Houellebecq montre une forme d'intelligence et de talent d'écrivain. Mais voilà, mais après ça s'effondre. Et alors, juste un tout petit mot, parce que Pierre-Claude a parlé des erreurs ou des bon, par exemple, c'est inouï. Enfin, il y a des négligences tellement lourdes que le personnage qui est ingénieur agronome ne sache pas ce qu'est une morille. Page 24, c'est quand même inouï. Enfin, ça montre une négligence totale par rapport à lui-même.
Mais comment vous expliquez tout ce temps que vous êtes plutôt critique du coup sur ce livre que tout de même il y ait autant de Français, et d'ailleurs pas que de Français, hein, Tiphaine Samoyeau, vous avez rappelé dans Le Monde que c'était un roman qui se vendait aussi à l'étranger. Comment expliquez-vous que tous ces lecteurs, qui ne peuvent pas être tous ni stupides ni incultes, apprécient Sérotonine?
Alors moi, je serais quand même moins sévère que mes camarades sur l'échec que constitue ce livre. Moi, pour moi, il est tout à fait dans la continuité des précédents. Simplement, il prend acte aussi d'une forme d'empirement de l'état du monde entre les années 90 où il a publié Les particules élémentaires et aujourd'hui.
Il y a quand même en effet une résonance et très forte avec ce qu'est le monde d'aujourd'hui qui en fait peut-être pour cela une œuvre d'art.
Et pour moi, c'est tout est quand même très concerté. Même les négligences sont concertées. La question des marques, bon, ça fait écho aussi au titre du livre, hein, Sérotonine, c'est un produit. Je pense qu'il y a une très grande conscience du travail, et cette conscience qui accompagne une volonté de reconnaissance incroyablement effrénée, hein, ça c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec Éric Marty sur ce point, pour moi est assez réussi. Bon, j'ai pas du tout eu du mal à finir le livre, j'ai reconnu aussi des échos, des amours de plateformes ou des particules élémentaires dans les relations amoureuses qui sont énumérées dans le livre. J'ai été assez intéressée par l'histoire du Emmerich, même si pour moi évidemment ça correspond à une forme de passéisme incroyable, hein. Il y a quelque chose de tellement anti-moderne chez Houellebecq que c'en est troublant. Mais je dirais
que le succès
il repose aussi sur la manière d'être tendre un miroir au lecteur, et c'est vrai que le succès est pas simplement français, il est quand même mondial. Et il me semble que la mondialisation d'un écrivain ou la fabrique d'un écrivain, qu'il soit classique, mondial, ça reflète aussi l'état de la mondialisation du monde actuel. Hein. C'est-à-dire que un écrivain qui se mondialisait dans les années 1900 ou auparavant, ça correspondait à un certain état de la mondialisation qui était l'internationalisme, par exemple. Hein. Donc on se mondialisait parce que on se raccrochait à une idéologie pacifiste ou communiste. Hein. On peut penser à Romain Rolland, Thomas Mann, des gens comme ça. Bon, aujourd'hui, on se mondialise en activant une forme de libéralisme consumériste. Donc il y a le déploiement d'une idéologie très antilibérale, mais au fond le texte est l'illustration même d'une forme de libéralisme effréné.
Alors on glisse comme ça tranquillement sur de quoi parle Sérotonine, le sujet de ce livre. La question de la mondialisation et de ses conséquences est évidemment très présente. Je vous propose d'écouter à ce sujet un autre extrait toujours lu par Michael Cohen.
Cécile est partie il y a 2 ans, poursuivit-il, sans changer de ton. Ça y est, on y vient, me dis-je. Il allait aborder le sujet enfin. Dans un sens, c'est de ma faute, je l'ai trop fait bosser. La gestion de la ferme, c'était déjà énorme, mais avec les bungalows, c'est devenu dingue. J'aurais dû l'aménager, essayer de m'occuper un peu d'elle. Depuis notre installation, on n'avait pas pris une journée de vacances. Les femmes, ça a besoin de vacances. Il en parlait de manière assez vague, comme d'une espèce apparentée, mais qu'il connaissait mal. Puis t'as vu où on est? Les distractions culturelles. Les femmes, ça a besoin de distractions culturelles. Il eut un geste évasif, comme pour éviter de préciser ce qu'il entendait par là. Il aurait pu ajouter que du point de vue shopping, ce n'était pas Babylone, et que la Fashion Week n'était pas près de se décentraliser à Canville-la-Roque. En même temps, je me disais... Elle n'avait qu'à épouser quelqu'un d'autre, la salope. Il faut dire qu'elle est partie avec un mec, ajouta-t-il après un très long silence. Il eut une sorte de petit gémissement douloureux, involontaire, juste après le mot « mec ». Là, il n'y avait rien à répondre. On était dans le dur, dans l'humiliation masculine à l'état brut, et je ne pus qu'émettre à mon tour un gémissement douloureux correspondant. C'était un pianiste, poursuivit-il, un pianiste connu. Il fait des concerts partout dans le monde, il a enregistré des disques. Il était venu là pour se reposer, pour faire un break, et puis il est reparti avec ma femme. Il y eut de nouveau un silence, mais j'avais pas mal de moyens de meubler ce silence, reprendre un verre de Chablis, faire claquer les jointures de mes doigts. Je suis vraiment un con, j'ai pas fait gaffe, reprit finalement Emmerich, d'une voix tellement basse que ça en devenait alarmant. On a un très bon piano dans le château, un Bossendorfer de Mieke, qui appartenait à une de mes aïeules. Elle tenait une espèce de salon pendant le Second Empire. Enfin, dans la famille, on n'a jamais vraiment été des mécènes, jamais comme les Noailles. Mais elle avait quand même un salon. Il paraît que Berlioz a joué sur ce piano. Bref, je lui ai proposé de jouer, s'il voulait. Il a fallu le faire réaccorder, bien sûr. Mais enfin, il a passé de plus en plus de temps dans le château. Et maintenant, voilà. Ils habitent à Londres, mais ils se déplacent beaucoup. Il fait des concerts partout dans le monde, en Corée du Sud, au Japon.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait du moment où donc le personnage d'Emmerich, l'aristocrate agriculteur qui donne tout pour son exploitation sans parvenir à s'en sortir, explique que donc sa femme l'a quitté pour un pianiste vivant à Londres, l'une des capitales de la mondialisation financière, tout un symbole. Et là, on a l'impression de retrouver le débat actuel incarné par les revendications peut-être des gilets jaunes entre le concret de la terre, du terroir d'un côté, et la vie présente comme hors sol d'une élite qui serait mondialisée, mondialiste. Sur cette question plus spécifiquement du rapport de sérotonine avec le contexte, Pierre Glaude.
Bon, je disais tout à l'heure que Houellebecq jouait avec des modèles anciens. Il me semble qu'il y en a deux principaux. Celui du roman Confession, c'est la confession d'un enfant du siècle, le nôtre, pas celui de Musset, mais on est, au fond, c'est le même dispositif, un récit rétrospectif à la première personne où quelqu'un revient sur son passé à mesure qu'il avance et on retrouve évidemment au cœur du récit le mal de vivre. Ici, il s'appelle dépression, nihilisme, désespoir. Et évidemment, il polarise les mots de notre société. Ce qui intéresse nécessairement le public, hein. C'est la confession est une forme narrative qui a connu un certain succès, surtout si elle se greffe, comme Houellebecq le fait, sur ce qu'il appelle son obsession lamartinienne, c'est-à-dire une grande histoire d'amour déçue qui articule la faute, l'amour, la faute, la culpabilité, la mélancolie. C'est histoire, hein, il a raté par deux fois le grand amour, et il l'a raté, en fait, c'est ce que l'on comprend du moins, c'est à cause d'un siècle où il est plus possible d'aimer. Donc on réactive, comme je le disais, des schèmes anciens, et on les réactive sur un mode allégorique qui tient parfois du roman à thèse, hein, qui réactive au fond un horizon métaphysique.
Donc on les réactive avec succès, c'est-à-dire que on réinvente le passé avec un œil d'aujourd'hui, on est cultivé, et donc par cette culture littéraire, on arrive à créer une littérature contemporaine qui ait des racines. Quel jugement vous portez là-dessus ?
Ça rejoint la question que posait Tiffaine tout à l'heure, qui est celle de la lisibilité. Effectivement, Houellebecq bascule dans une trop grande lisibilité de ses procédés, dans une surexposition de ce que fait et est Houellebecq, ce sera effectivement un ratage. Je n'en suis pas sûr. Je ne me prononce... n'arrive pas à me prononcer véritablement. Ce qui brouille un peu la lisibilité, c'est le montage. Parce que à côté de cette confession d'un enfant du siècle, vous avez le versant naturaliste. et ça répond plutôt à votre question. Quand je lis Houellebecq, je pense à Zola. Mmh. Je retrouve les mêmes procédés naturalistes dans l'usage de la langue, dans l'étude de milieu, ici c'est un milieu du monde agricole, dans l'enracinement, enfin dans tous les signes qui permettent d'indexer un genre à une tradition, par exemple la topographie, hein, le château d'Hollande tel qu'il le décrit est parfaitement conforme à son modèle. On peut aller faire un pèlerinage au Mercure de l'avenue Sœur Rosalie ou aller prendre un verre chez Au-Jules. Bon, voilà. Ça passe aussi par des indicateurs de modernité, les marques. Bon, c'est un truc qu'il a déjà utilisé et qu'il réutilise. Et effectivement, ça, il joue sur des poncifs, il joue sur des stéréotypes, exactement comme le ferait Zola. Et non seulement il a la prétention de représenter la réalité contemporaine, mais il met au cœur de son récit un personnage de savant, enfin de pseudo-savant, de petit savant, mais enfin d'agronome. Il est un homme qui a une compétence, et en particulier en matière agricole, ce qui lui permet de tenir un discours savant sur la réalité de notre monde agricole, mais qui est fortement idéologisé, et qui pose une thèse sur, bon, comme il le dit, notre agriculture est foutue. La mondialisation ne permet pas à un agriculteur qui veut faire de l'agriculture propre de parvenir à ses fins et de ne pas se ruiner. Alors, pour revenir à la question des gilets jaunes, moi je suis très dubitatif. Hein, sur, c'est pas parce que Houellebecq a su évoquer le monde agricole et ses crises, ce qui n'est pas du tout un phénomène nouveau. Oui,
comme il avait évoqué dans d'autres romans des événements qui étaient totalement contemporains à la sortie de ces romans-là, comme par exemple les attentats de Charlie Hebdo au moment de soumission.
Oui, et ça n'est pas pour autant qu'il saisit les enjeux, me semble-t-il, de la crise des Gilets jaunes, et en particulier ce qui me paraît au cœur de cette crise, qui est la question du populisme.
Vous pensez qu'il participe au contraire? C'est une question que je pose hein, sans avoir...
Alors il me semble là-dessus. En effet, si vous voulez, qu'il y a une forme de populisme chez Houellebecq, mais qui n'est pas tant dans la description qu'il donne d'Emeric et du monde agricole, mais plutôt dans la façon dont il campe un personnage abject, régressif, qui réactive toute une série de poncifs archaïques sur l'homophobie, sur la xénophobie. Sa vision du monde, elle est à la fois cynique et d'une vulgarité insoutenable. Et mais, alors c'est là la question, est-ce qu'il faut croire qu'il y a une forme d'adhésion à ce discours ou au contraire que ce discours est défamiliarisé en étant surexposé? Et c'est là que peut-être se joue la question de la littérarité de ce texte.
Éric Marty.
Oui, on a beaucoup prêté à Houellebecq une sensibilité sociologique au contemporain. On lui a prêté beaucoup. Et effectivement, il a pu par moments attester avec plateforme, attentat en Indonésie et soumission, attentat de Charlie Hebdo. Mais justement, c'était une capacité de perception du monde. Il me semble que si, et c'est important que vous parliez des Gilets jaunes parce que ça a été là-dessus que tout le monde s'est précipité pour louer Houellebecq.
Bah, c'est vrai qu'il y a quand même
qui était enfin capable de comprendre le monde contemporain.
Par exemple, quand le personnage parle de la ridicule limite à 120 km/h sur les routes de campagne, il y a quand même un certain nombre de notations qui font vraiment penser à la crise des Gilets jaunes.
Sauf que les Gilets jaunes, c'est Céline, c'est pas Houellebecq. C'est-à-dire, c'est la phase sadique, c'est pas la phase masochiste. En effet, que dans plateforme et soumission, ce que mettait en évidence Houellebecq, c'était une forme de masochisme sensible qui, en effet, faisait du sujet occidental quelqu'un qui était attaqué, soumis, victime, et qui pouvait par là développer une forme d'intuition par rapport à un réel contemporain. Mais les Gilets jaunes, c'est pas un masochisme. C'est pas du tout cette position, justement, de l'occidental blessé ou détruit. C'est au contraire une sorte de révolte sadienne, de jacquerie, de violence célinienne qui marque un populisme hargneux, fondamentalement qui aime le sang, qui aime la violence et qui est dans une brutalité incroyable. Ce que, précisément, Emeric est incapable de mettre en place. Emeric, c'est quelqu'un, c'est une lopette pour
même
reprendre
si,
la,
le mot de Houellebecq. Même s'il a des armes chez lui et qu'il affronte les CRS.
Justement, d'autant plus qu'il y a des armes chez lui. D'autant plus qu'il y a des armes chez lui. Et donc, là, on voit qu'à ce moment-là, que Houellebecq n'est pas du tout en phase avec, je dirais, la phase sadienne ou la phase célinienne que l'on vit, qui est marquée présentement par la violence et non pas par le masochisme et la dépression.
La phase sadienne, ça me donne envie de vous donner la parole, Stéphanie Genant.
Pour revenir d'abord sur ce que vous avez dit sur le libéralisme, là encore, Sérotonine, je trouve, est très ambigu. Autant les premiers textes de Houellebecq étaient très clairs et proposaient de ce point de vue-là une espèce d'anatomie du libéralisme, aussi bien économique que sexuel, hein, c'était le cas d'extension du domaine de la lutte, il y avait, et c'est ça qui était intéressant, une autopsie de la violence à l'œuvre dans la sexualité, mais aussi dans les rapports au travail et bien sûr dans les lois du marché. Or, dans Sérotonine, on a à la fois une espèce d'ébauche de réquisitoire contre la mondialisation à travers l'épisode agricole, mais en fait, ce n'est qu'une ébauche, puisque cette ébauche, elle est portée quand même par un agronome qui roule en 4x4, qui insiste à chaque page sur la performance de ce 4x4, dont il fait des pleins avec le diesel de manière jubilatoire, tout en disant tous ces cons de parisiens de gauche qui sauvent l'environnement.
Il y a un côté de mauvaise conscience, justement, de ce personnage qui est montré par le roman.
Oui, mais cette espèce de... c'est caricatural. Et puis, Houellebecq est un produit de la mondialisation. Il vend des livres partout aujourd'hui. Il s'enrichit là-dessus. Comment peut-on être crédible à dénoncer un marché dont on est soi-même l'enfant, le bâtard? Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant malgré lui. En tout cas, il en joue, il en jouit. Donc, il perd tout crédit de ce point de vue-là. Alors, vous parliez de Sade pour finir. Là encore, dans Les particules élémentaires, Sade est plusieurs fois convoqué. C'est un auteur avec lequel Houellebecq dialogue explicitement, mais dialoguait, en tout cas dans Les particules que j'ai relues aussi pendant les vacances de Noël, de manière très fertile. C'est-à-dire que Houellebecq pratiquait dans ces textes-là les particules et extensions, mais surtout les particules, ce que pratique Sade, je crois, c'est-à-dire une anatomie de la violence humaine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Or là, Sade n'est plus convoqué, encore une fois, il l'est, hein, mais comme une espèce de les œuvres complètes qu'un marquis ou qu'un 18e-iste décadent au fin fond de la Manche possède dans son grenier, c'est-à-dire que même l'auteur avec lequel il partageait un projet moderne, c'est-à-dire nous proposer ce qu'est l'homme, cet auteur finalement n'est plus qu'une référence gratuite, pour vous dire que là, Houellebecq, à mon avis, met en scène sa relégation ou son appauvrissement idéologique aussi.
Mais pourquoi est-ce qu'il ne mettrait pas en scène tout de même ce qu'est l'homme? C'est un petit peu ça, montrer ce qu'est le mâle blanc qui roule en 4x4, ça n'est pas forcément le cautionner. Est-ce qu'il n'y a pas un projet quand même qui consiste à montrer la société d'aujourd'hui telle qu'elle est, sans pour autant trouver qu'elle est bonne et qu'il faut continuer de cette façon-là, un peu comme Sade le faisait d'une autre manière et à une autre époque?
Mais je trouvais que c'est ce que faisait Houellebecq, c'est ce qui le rendait pour moi intéressant.
Alors pourquoi pas dans ce roman-là et pourquoi dans les autres?
Quelque chose, justement, ne prend pas ici. C'est-à-dire que ce personnage, en gros, il fait en sorte, j'ai eu l'impression aussi à lire, qu'on ne puisse jamais croire une seule seconde à ces personnages. Ça passe, par exemple, dans les premières pages, moi ça m'a frappé, par un jeu avec l'onomastique très distant. Alors Houellebecq a toujours aimé nommer ses personnages, c'est très important. Hein, leur prénom, d'abord ils s'appellent quasiment tous Michel, à part celui-ci, mais enfin, leur donner un prénom et un nom, leur donner une identité de fiction qui va nous permettre à nous de nous y projeter un minimum ou d'y croire. Bien sûr, il fait en sorte qu'on n'y croit jamais totalement. Les particules élémentaires, par exemple, on s'attache à Michel, mais très vite on part sur l'histoire de Bruno. Or là, il surjoue le nomastique, puisqu'il y a trois pages de commentaires sur l'absurdité du nom de son personnage, si bien que ce mâle dominant qui roule en 4x4 et qui adore faire les pleins de diesel, etc., n'est pas crédible une seule seconde. Du coup, il perd son pouvoir de représentation, son pouvoir de symptôme que pouvaient avoir les autres personnages de Houellebecq.
Donc il y a des références à Sade, il y a aussi des références à Thomas Mann, des références à Conan Doyle. À quel écrivain souhaiteriez-vous si ce n'est le comparer, au moins le mettre en miroir, Tiphaine Samoyo? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut soit l'inscrire dans une démarche similaire, le comparer à un autre écrivain?
Alors là encore, il y a une grande habileté, à mon avis, des signes qui sont distribués tout au long du roman. C'est-à-dire que de la même manière que les propos idéologiques, il peut constamment être renversé, hein, et qui fait que on a du mal effectivement à la fois adhérer, mais aussi à prendre les choses au sérieux, puisqu'elles sont quand même très facilement renversables, hein, aussi bien les propos moraux que les propos politiques, que voilà, il y a quand même une grande ambiguïté idéologique. Sur la question des références littéraires, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre Glaude, il y a une forte référence au naturalisme, et puis aussi au romantisme, hein, moi je rattacherais quand même fortement Houellebecq au romantisme, d'abord parce que il cède à des formes de lyrisme passionné.
Il le revendique peut-être un peu d'ailleurs.
Mais aussi parce qu'il s'implique dans les affaires du temps. C'est aussi une des particularités du romantisme d'avoir des choses à dire sur tout et le sentiment qu'on peut encore traiter de l'homme, de l'humanité, de l'humanisme d'une certaine manière. Mais là où je trouve le texte très ambigu, c'est que donc il fait référence à Proust, à Barbey d'Aurevilly, à Lamartine, donc à des auteurs du 19e jusqu'au pré-20e siècle. Et puis il y a un auteur qui subit un peu son rejet apparent de la narration, qui est Blanchot. Puisque on se moque des lectures sur France Culture de Maurice Blanchot, donc qui apparaît comme le repoussoir littéraire du livre, et qui, à mon avis, est en fait la grande référence, hein, la grande référence souterraine et recherchée. Hein, c'est la hantise de la mort, enfin l'obsession de la mort de Blanchot, les personnages de Thomas l'Obscur, qui est quand même un personnage aussi de dépressif. Et donc toutes ces figures, et en fait de ce que cherche en fait Houellebecq, c'est quand même d'être reconnu comme un grand écrivain, mais aussi de la part de la littérature, de la part d'un pôle de reconnaissance lettré, pas simplement du pôle de reconnaissance large, qui est celui qui est recherché apparemment. Il y a aussi, au-delà de cette apparence, cette recherche-là. Et donc, je trouve que c'est comme d'habitude, très, très ambigu.
Il nous reste assez peu de temps. Un mot peut-être sur la question de l'écrivain moraliste. Le roman se termine aux dernières pages avec ce sentiment que finalement le cynisme rend malheureux. On a l'impression qu'il nous donne une sorte de guide de vie. Pierre Glaude, a-t-on affaire là à un roman qui serait celui d'un écrivain moraliste ?
En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, la structure du récit, avec sa circularité, la phrase initiale reprise à la fin, cette espèce de décrochage final qui fait apparaître les dernières pages comme une sorte de leçon de l'expérience et de moment de capitalisation du sens. Et d'apparition de Dieu, qui était déjà présent, comme le notait Eric tout à l'heure, dès les premières pages. Hein, il y a un horizon métaphysique qui surgit et ce récit de la platitude s'élève tout à coup vers les cimes pour dire au fond, je vais être trivial, mais dans un monde où Dieu est mort, nous sommes condamnés à ne plus pouvoir aimer. C'est peut-être aussi... aussi simple que ça.
Ou alors, la morale de ce livre pourrait aussi être, si vous aimez quelqu'un, tentez de garder cette personne. Il y a cette idée aussi
mais
un peu basique,
près, mais
enfin,
oui,
qui est là.
Peut-être, ça c'est peut-être la version optimiste, mais peut-être, mais à ceci près que, justement, tout semble, enfin, toutes les conditions semblent réunies pour qu'il ne soit plus possible d'oser, oser. Et bon, alors, ce surgissement de Dieu au dernier moment, est-il crédible ? Ça, c'est vraiment une question.
Éric Marty.
C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. C'est la première phrase du livre et c'est la dernière phrase du dernier paragraphe du livre. C'est une phrase, alors, on va dire, blanchotienne peut-être, ne serait-ce que par le blanc qui y est. Et c'est la plus belle phrase du livre. Malheureusement, il me semble que Houellebecq est incapable ici d'en faire quelque chose.
Pourquoi est-ce la plus belle phrase du livre ?
Parce que c'est une phrase parfaitement rythmée, parfaitement d'une très grande précision et qui saisit quelque chose au travers d'un objet. C'est-à-dire que l'objet, comprimé blanc, capte tout. Et voilà, il faudrait déplier ça. Il me semble que Houellebecq n'est pas capable de le déplier.
Stéphanie Genon.
Moi, sur un marque-page, quand j'ai reçu Sérotonine, il y avait une phrase qui immédiatement m'a fait croire que ce serait celle du livre. C'est une phrase qu'on trouve à la fin lorsqu'il dit « Il y a certaines zones de la psyché humaine, je cite, qui demeurent mal connues ». Je me suis dit « Tiens, on va avoir le roman de l'exploration de ces zones mal connues », d'autant que le titre laissait aussi croire ça. Et en fait, non. Je trouve que cette phrase, quand je l'ai retrouvée dans le corps du texte, j'étais déçue. Je me suis dit que ce livre-là, du coup, qui promet l'exploration de ces zones de la psyché mal connues, moi que j'aurais bien voulu, et je pense que Houellebecq aurait été tout à fait armé pour nous aider à les explorer, en fait, on ne les voit pas, malheureusement.
Pour quelle raison ne fait-il pas cet effort, selon vous ?
Parce qu'il n'a plus besoin, puisqu'il vend 90 000 livres en écrivant ça. Je vois pourquoi il ferait l'effort de nous faire un vrai roman.
C'est un moraliste ?
Ça l'était. Ça l'est plus.
Et Tiphaine Samoyau, le mot de la fin très rapidement.
Oui, je dirais que c'est peut-être un livre pharmacopée, comme l'indique son titre, plutôt que pharmacone, hein, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas d'espace suffisant à l'interrogation. Comme je le disais en commençant, il ne force pas le lecteur à construire lui-même le monde qu'il propose ou les conditions de son habitabilité.
Merci beaucoup à tous les quatre. Stéphanie Genant, je rappelle que votre biographie de Sade vient de paraître, nous en parlions la semaine dernière dans cette même émission, elle est disponible dans la collection Folio Biographie. Tiphaine Samoyau, vous, c'est la vie de Barthes que vous avez raconté dans une biographie, disponible depuis 2016 dans la collection Point. Pierre Glaude, je signale votre essai La littérature et la Bible, paru l'an dernier aux Belles Lettres. Et enfin Eric Marty, votre roman L'invasion du désert, apparu en 2017, c'est aux éditions Manusus. C'était La Compagnie des auteurs, spéciale sérotonine, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault et Morgane Danon. Lundi, on se retrouve pour une série consacrée à Robinson Crusoe et les Robinsonnades. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie. Bleu, nous restons sur la même note bleue qui ne sera pas celui de la Méditerranée, ni de ses romances. Nous quittons Yann Miralles, mais nous restons en mer, ou plutôt en amer, avec Martin Rueff. La mer fait peau neuve, pour la revue Poésie, dans le numéro Europe Express encore. Sur la couleur bleue, on peut lire les belles histoires de Michel Pastoureau, ou ouvrir la parenthèse questionneuse de Walter Benjamin, bleu, couleur des idées. Quant au bleu, ceux que plus ou moins profonds on porte en soi, dans la peau ou sur la peau, et qui frappent les enfants comme les personnes plus âgées, ils n'intéressent pas vraiment les médecins. Affaire de surface, disent-ils. Mais ces bleus intéressent les philologues et les poètes. Ce sont les ecchymoses, ça c'est du grec, taches que produit du sang qui s'extravase. Les bleus relève de l'hématopoïèse. Cela ne s'invente pas, nous dit Martin Rueff. Ou plutôt, si, cela s'invente puisqu'il est des bleus profonds comme des souvenirs d'amour et amers comme des rêves de société plus juste. Je chante le bleu qui passe de corps en forme et qui cherche un œil, un glacier, un drapeau, une mer, un ravin, un fruit et trouve une main, une plage, un arbre, une hache. Et deux lèvres de contre-ciel. Ne pourrait-on demander un peu d'attention pour les bleus, ou des poèmes au moins, car c'est ainsi que la mer fait peau neuve. Allons-y. De l'évolution des hématomes traumatiques, hématopoïétiques 1. Du fond de la mer, courbé sur eux, recourbé dans le soir frais, ce qu'ils remontent, comme pour embraser l'écume, comme pour la faire brûler, ce sont exquise méduse, des bleus, pour les passer dans leurs veines, de la tête au front, de grands hématomes de mer, allez tirer sur vos lignes, allez remonter vos filets de bleus garnis, élevez vos chants, vos hymnes ecchymosés au plus profond des sacs de mer, méduses transfuses, qui disent les vérités de nos peaux laiteuses. Et tout logiquement, hématopoïétique 2, méduses prisonnières, arrêtée sous la peau, étoile bleue ou cristaux sous la glace, quand les veines éclatent, pète sous-cutanée, comme un qui saignerait dedans par haute discrétion, le plus profond. Hématopoïétique 3. Tatoueur grotesque, avant-gardeur d'hier, porteur de rose à maman, d'encre à pupus, de serpent violacé à l'encre bleue dessinée, tatoueur grotesque des poulpes de hooligan, jamais vous ne ferez mieux que ces rosaces enflammées, grandes comètes aux biceps, œil au noir, tibia constellée, mer caspienne, sans déboucher ni tracé que dedans. Et l'hématopoétique 4 de Martin Rueff, plus encore d'actualité, il remonte du fond de la classe, les bleus, à fleur de peau, à brûle pour point, les voilà qui s'agitent au premier banc, violacés, jaune-pourpre, détendus, agités, en étoile. C'est l'année des blessements annoncés, au pas la pas de la peau, hématome sonne.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des textes de Martin Rueff.